Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL à 3 jours du premier tour des législatives. Vous êtes candidat dans le 19e arrondissement de Paris, 16e circonscription pour être précis. Vous n'avez jamais été aussi menacé de perdre. Est-ce que c'est un calvaire pour vous cette campagne ?
J'ai déjà été menacé, j'ai déjà été battu.
Oui, vous avez déjà été battu, mais récemment, vous n'avez jamais été aussi menacé, vous êtes pris en tenaille entre la candidate France Insoumise et le ministre Mounir Majoubi, le ministre En Marche. Ça s'annonce très très compliqué. Ça a rarement été, si vous préférez, rarement été aussi difficile pour vous.
Les campagnes électorales sont toujours difficiles, mais celle-ci a un goût particulier, puisque la gauche est fragmentée dans un arrondissement, dans une circonscription qui fait 70%, 72% à gauche. Mais il suffit d'être au second tour et on l'emporte.
Donc vous êtes encore optimiste. Pourquoi pas dire franchement la réalité ? C'est compliqué, vous êtes challengé, vous avez subi des attaques, vous êtes d'ailleurs énervé devant une caméra, ça témoigne quand même d'une certaine fébrilité. C'est très compliqué pour vous.
Non,
et vous risquez d'être battu.
Bien sûr, quand on se présente à une élection,
par définition,
on risque d'être battu. Mais honnêtement, le climat n'est pas du tout à cela. Hein. Je veux dire, sur le terrain, les gens sont entre faut-il donner au président de la République les moyens d'agir ou faut-il équilibrer l'Assemblée nationale.
Voilà. Bon, ils sont franchement, d'après les sondages, franchement tentés de donner une très forte majorité à Emmanuel Macron. Ils sont cohérents, semble-t-il.
On verra dans les urnes ce qu'il en sera au deuxième tour de l'élection législative.
Vous ne croyez pas à la grande razzia ?
Si, j'y crois. Je crois qu'il y a une possibilité, je le redoute, parce que cela voudrait dire que nous aurons une Assemblée nationale qui votera au canon, qui sera une chambre d'enregistrement, et il n'y aura pas d'opposition. À partir du moment où il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale, elle sera soit dans les médias, soit dans la rue.
Mais trop de pouvoir à Emmanuel Macron, c'est un danger pour la démocratie.
Trop de pouvoir tue le pouvoir, oui.
C'est-à-dire
le centralise.
En 2012, vous aviez tous les pouvoirs. Vous aviez l'Assemblée, le Parti Socialiste, je parle. L'Assemblée, le Sénat, les collectivités locales à l'époque, on ne vous a pas entendu dire que c'était gênant pour François Hollande.
Mais vous en tirez vous-même la conclusion. C'est à partir du moment où on a eu tous les pouvoirs qu'on les a tous perdus. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur la suite. La centralisation autour d'Emmanuel Macron dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et maintenant sécuritaire va créer des tensions, des contre-pouvoirs, des volontés de voir le pays respirer autrement.
Vous craignez cette tendance à la centralisation du pouvoir par Emmanuel Macron ?
Je ne la crains pas, je la vois.
C'est-à-dire ?
Tous les jours. Écoutez, il suffit d'ouvrir les gazettes et on voit que le pouvoir est maintenant jupitérien. Il n'y aurait plus d'opposition. Les médias seraient choisis. Les candidats seraient choisis. Les oppositions seraient choisies. Et ainsi de suite. Écoutez, je constate cette situation.
Une tendance au césarisme ?
Césarisme,
c'est une expression historique pour dire que on concentre
mais un seul homme.
Voilà.
C'est la monarchie républicaine, c'est ça la Ve République. Ouais. C'est le retour à 1958-1962. Ça a été théorisé par le président de la République dans un interview, c'est-à-dire la verticalité du pouvoir contre les corps intermédiaires.
Ouais. Ça, c'est ce que vous dénoncez. Ce que vous dites, finalement, c'est que s'il n'y a pas une opposition forte, la démocratie fonctionne mal.
Bien sûr, si vous, au Parlement, si vous n'avez pas une opposition qui oblige l'exécutif à composer, l'exécutif décide et le Parlement n'est pas
pourquoi
un contrepoint.
Elle devrait composer une forte majorité, ça permet à Emmanuel Macron de gouverner, de mettre en œuvre son programme,
ce pourquoi il a été élu, attention, il a fait 24% au premier tour, il a été élu au second tour avec l'alliance de tous les partis démocratiques. Donc il y a quelque part une cohabitation dans le deuxième tour. Il faut en prendre acte et il faut la prendre en compte.
Ce que vous dites, c'est que, faute d'être au Parlement, l'opposition serait où ? Dans la rue ?
L'opposition
serait. Vous voulez aider Emmanuel Macron, finalement ?
Je suis pour que la France réussisse et donc à partir de là que le quinquennat soit une réussite pour la France. Mais pour cela, il ne faut pas qu'un seul homme décide. Il faut que l'on soit dans la coproduction de ce qui est bon pour la France.
Récemment, dans les annonces qui ont été faites, puisque le gouvernement commence à entrer dans le dur et à déployer ses projets, où est-ce que vous voyez la tentation de centralisation ?
Ben, on le voit sur la loi travail. Sur la loi travail, on est quand même à 3 jours, vous l'avez dit, de l'élection législative. Personne ne sait sur quoi on va se prononcer.
Bah, les Français, les syndicats, par exemple, se félicitent du fait d'avoir un calendrier précis maintenant, avec 50 réunions de concertation. Ce n'est pas pour faire du tricot, si vous me permettez l'expression. C'est quand même pour discuter du texte. Il n'y a pas la volonté de confisquer quoi que ce soit.
Mais et quand vous voyez les déclarations de la ministre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les grandes orientations sont fixées et qu'on va informer les organisations syndicales. Ouais, j'ai entendu les organisations syndicales. Elles ne sautent pas de joie à ce qui est proposé sur la barémisation, par exemple, sur la remise en cause des accords de branche, ou tout simplement sur la situation dans les entreprises.
Oui, mais le gouvernement n'avance pas masqué. Emmanuel Macron s'est fait lire. Emmanuel Macron s'est fait lire sur un programme qui prévoyait, par exemple, que l'accord d'entreprise soit étendu au-delà de la simple.
Cette orientation-là dont vous parlez, elle a fait 24% au premier tour.
Mais alors, ça veut dire qu'il ne peut rien faire, hein, Emmanuel Macron, parce qu'il a 24%, il ne peut pas appliquer son programme.
Je ne dis pas ça. C'est toute la contradiction de la Ve République et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Au second tour, il n'y a pas eu un accord de projet avec le pays. Il y a eu un accord de rejet par rapport au Front National. Et donc, cela nécessite que tous ceux qui ont participé à ce rejet puissent en discuter de ce projet. C'est ça la contradiction dans laquelle on est.
Et attention, vous dites que c'est un président, d'une certaine façon, compte tenu de son élection, entravé, empêché. Il ne devrait pas faire ce qu'il a dit qu'il allait faire.
Mais il devrait composer avec l'ensemble des forces qui l'ont porté au pouvoir.
Donc une coalition,
Je ne serais pas contre, mais ouais, lui, il ne l'exclut. Non, mais les Français ne sont pas prononcés là-dessus. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où cette distorsion du premier et du second tour va s'exprimer sous la forme d'une majorité absolue, dit-on, à l'élection législative.
Alors, le Parti Socialiste, dans cette élection, pourrait passer de quelques 300 députés à combien ? 20 ?
On n'en sait rien, puisque c'est...
Les projections disent...
Quand on interroge les sondeurs, on leur dit, bon, vous nous dites qu'il y aura 30 députés, où ? Ouais. Ils sont incapables de nous dire où. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans 577 circonscriptions, il y a 577 combats.
Alors, en tout cas, vous allez passer de 300 députés, majorité absolue en 2012, à peut-être quelques dizaines. Il paraît que vous vous inquiétez même du fait de pouvoir avoir un groupe ou pas, c'est-à-dire 15 députés.
Non, j'ai jamais dit ça. Ça a été lancé à la suite d'un interview.
Vous n'avez pas des sueurs froides, parfois des cauchemars, vous vous réveillez en disant et si on n'avait plus de groupe à l'Assemblée ?
Non. Ça, le groupe à l'Assemblée, c'est pas le sujet, n'exagérons rien quand même.
La marque PS risque de disparaître ?
Non. Les idées socialisme, le socialisme restera. C'est la maison des socialistes qui est à rebâtir pour qu'elle s'exprime et qu'elle soit différente.
Oui, mais elle est déjà, j'allais dire, à l'intérieur, très différente entre ceux qui, pour les législatives, se revendiquent de la République en marche comme Manuel Valls, ceux qui, comme Marisol Touraine, mettent simplement majorité présidentielle, ceux qui, comme Benoît Hamon, incarnent déjà une opposition frontale. C'est tout ça, le PS.
Vous me parlez de 5 personnes. Ah bah, il y a 577 candidats.
Aujourd'hui,
regardez.
Ils sont cinq.
Il y a des personnalités, et ça a toujours existé. Quand vous regardez ce qui s'est passé lors des précédentes élections, il y a toujours eu des camarades, des militants, des députés qui ont eu leur propre slogan et leur propre forme politique.
Justement, c'est peut-être le problème du Parti Socialiste, c'est que ça a toujours existé.
C'est un parti pluriel où il y a des nuances, des sensibilités. D'autres partis fonctionnent autrement, où c'est le chef qui décide.
J'ai échoué à faire l'unité.
Oui, j'ai échoué à faire l'unité.
Est-ce que ça n'est pas d'avoir trop tenté l'unité qui vous fait échouer aujourd'hui ?
Non, je crois que l'unité est nécessaire. Dans notre pays où il y a la fragmentation, il faut essayer de rassembler des positions divergentes. Sinon, ça ne fonctionne pas. À la fin, l'ensemble des positions divergentes se retournent contre celui qui veut imposer son propre pouvoir.
L'échec du Parti Socialiste, ça n'est pas l'échec de cette synthèse impossible ?
Non, ce n'est pas l'échec de cette synthèse impossible. C'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas eu assez de thèses.
Selon BFM, il y aurait eu de l'argent public dans l'opération qui a permis à la campagne de Richard Ferrand de louer des locaux aux mutuelles de Bretagne. C'est un peu compliqué, mais enfin bref, 55 000 euros qui seraient venus de la ville de Brest et du Conseil général du Finistère auraient été injectés dans l'opération. Le dossier s'alourdit, il aurait dû partir.
Mais oui, on l'a dit depuis le début, nous connaissons toutes ces histoires-là, il faut se mettre de côté dès le point de départ pour faire pour pouvoir dire à la fin qu'il n'y a rien eu, mais sinon on s'en sort pas.
Dernière question, parmi les dernières annonces, il y a eu le report d'un an de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et une évaluation annoncée par Édouard Philippe hier matin du tiers payant.
Et ça, c'est assez
scandaleux. Deux réformes hollandaises maintenues, mais on dirait sous surveillance.
Oui, j'attends la réaction d'ailleurs de Marisol Touraine à cette décision, puisque c'est elle qui l'a mise en place et qu'elle se réclame de la majorité présidentielle.
C'est scandaleux, pourquoi ?
Parce que c'est quelque chose qui touche l'ensemble des Français, et particulièrement les plus faibles.
Et donc là, vous voyez un acte asocial, antisocial du gouvernement ?
Il n'est pas fait. Pour l'instant, c'est une réflexion à haute voix du Premier ministre.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, dans ce studio d'RTL.
Pour que le quinquennat soit une réussite, il ne faut pas qu'un seul homme décide. Emmanuel Macron devrait composer avec les forces qui l'ont porté au pouvoir, nous a notamment dit le premier secrétaire du Parti Socialiste. Dans la 16e circonscription de Paris, j'en profite pour donner le nom des autres candidats. Mounir Majoubi pour La République En Marche, Anne-Constance Onguena pour Les Républicains, Sarah Legrin pour La France Insoumise et Dan Lair pour Europe Écologie Les Verts. Le reste de la liste est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.